France Inter.
C'est mon psychiatrique, c'est particulier, c'est pas accessible à tout le monde, quoi.
Les fous, c'est compliqué de dire fou, hein, parce qu'on est tous fous. Hein.
Ça a été déclenché par l'arc-en-ciel.
Quoi d'abord ?
C'est micro-société pour les personnes un peu fragiles, des nerfs.
Alors, les malades mentaux, c'est compliqué aussi. Hein. Ici, on appelle ça des pensionnaires, mais c'est guère mieux. Hein.
C'est pas une honte d'être ici comme le croit cette famille. Van Gogh, il était en clinique. C'est pas une honte.
Chaque schizophrène est différent.
Moi, je suis bien ici.
On sait pas quoi dire, hein. Que les fous, ça ne veut plus rien dire.
France Inter.
Ici, c'est du retissage existentiel qui prend un temps géologique.
Charlotte Berry.
Il est presque 7h du matin. On est à la clinique de la Borde, dans le village de Courcheverny, dans le Loir-et-Cher. On traverse les sous-bois pour arriver au château, le centre névralgique de la clinique. On commence à voir les dépendances du château. Et tout autour, la partie dans le parc, il y a aussi les quatre secteurs de soins où les pensionnaires résident. C'est assez magique parce que le château apparaît par petits morceaux à travers les feuillages des arbres. Devant les marches, il y a des chaises, des tables. Il y a un grand parc sans mur d'enceinte, où les pensionnaires circulent librement. Bonjour.
Bonjour madame, je m'appelle Valentin Bernard, je suis arbitre de foot depuis 20 ans, et j'ai arrêté ma carrière de casino de la Roche-Posay à cause d'une dame qui m'a dit « je ne dis pas bonjour aux handicapés ».
Ah d'accord, là vous allez prendre le petit déjeuner ?
Oui.
On va rentrer dans le château.
Il n'y a plus de bananes. Et c'est toujours moi la dernière.
Je pense qu'il va falloir vous mettre une autre place parce qu'ils vont tous venir autour de vous sinon.
Mais oui, je sais que je suis chiant. Mais ils sont tous là à se vautrer sur les médicaments. Moi, je peux rien faire. Hein. Bon, je prends pas de médicaments, c'est tout, voilà.
Là, c'est la queue pour les médicaments.
Tous les matins, ils apportent le plateau. Il y a plusieurs secteurs, il y a quatre secteurs, le hautbois, le parc, les pilotis et l'extension. Et chacun a son petit gobelet de médicaments, chacun son traitement en fait.
Moi je vais essayer d'attraper mon café.
Je me demandais si vous alliez prendre votre gobelet de médicaments, je me disais ah bon déjà.
Non, je prends mon café. Bonjour,
je suis bien Dorothy Driss et vous êtes bien à la Borde.
C'est une aventure hors norme qui se poursuit à la Borde depuis plus de 70 ans. Depuis qu'en avril 1953, le docteur Jean Houry y a posé ses valises accompagné d'une vingtaine de ses patients pour y mettre en œuvre les principes de ce que l'on appelle la psychothérapie institutionnelle. Une doctrine née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui repose sur une vision humaniste de la prise en charge des malades mentaux. À la Borde, il n'y a pas de quartier d'isolement, pas de contention, mais une liberté totale de circulation. Les soignants, que l'on appelle ici des moniteurs, ne portent pas de blouse blanche et la vie sociale y est organisée autour d'ateliers gérés par le club thérapeutique, une instance indépendante à laquelle appartiennent tous les pensionnaires. La parole aussi circule, à l'occasion des nombreuses réunions qui jalonnent la journée. La Borde, c'est tout un écosystème. 107 pensionnaires y résident de façon permanente, en grande partie schizophrènes ou psychotiques. On compte 30 places en hôpital de jour et une centaine de membres du personnel. Dans les années 70, Félix Guattari y a attiré de nombreux artistes et intellectuels. Françoise Dolto y a pensé la garderie. La Borde avait le vent au pouls. Aujourd'hui, le regard sur la folie a bien changé. Mais la Borde résiste. Et malgré le décès de Jean Houry en 2014, l'aventure continue à contrevent de la vision dominante. Et tout de suite, on retourne au château, où le petit déjeuner se poursuit dans une ambiance un peu plus calme.
Un café au lait ?
Ouais.
Allez vous asseoir, je vais aller vous faire ça.
Oui.
Oui, Robin, je ne vous ai pas oublié. Rémi, venez boire votre café avec nous.
Attendez une seconde.
D'accord, Rémi.
C'est plus calme, là.
Enfin, c'est relatif.
Vous vous appelez quoi ?
Pauline. Je suis monitrice depuis pas très longtemps, en fait. Ça va faire ma deuxième année.
Est-ce que vous voulez une tartine, Rémi ?
Oui. Si les gens arrivent après 9h, ils ont loupé le petit déjeuner et on a le range accueil et ils mangent que le midi.
Le range accueil, c'est à 9h, c'est ça ?
9h30. On prend du thé, du jus d'orange, du café. On va dans chaque secteur et après on se répartit les tâches. Il y en a qui font le ménage dans leur chambre. Il y en a qui se préparent pour aller à la piscine comme moi là tout à l'heure. Il y en a qui font le balai dans le couloir, la serpillière, qui nettoient les toilettes, qui nettoient les douches et tout ça.
Ça, le ménage, ça fait partie du soin aussi.
Ça, enfin, tout ce qui va être vie quotidienne, en fait.
La lingerie.
Alors les bureaux aussi.
Valérie, par exemple, elle travaille beaucoup dans les bureaux administratifs. Au 207, avec le bureau des métiers. Vous triez les dossiers. Vous répondez au téléphone. Tout ce qui est...
Je vous refais une tartine, mais c'est la dernière.
Ouais.
Ouais.
Je suis après la piscine, tu vas couler.
Nous sommes des fous, vous et nous.
Il y a une camionnette qui arrive.
Nous sommes très doux, vous et nous.
Primeur.
Nous sommes des loups, des filous. Nous sommes des poux, des bijoux.
Bonjour, c'est Valentin.
Bonjour, les cuisines.
Alors, je vais vous guider.
D'accord.
Des nous et vous.
Bonjour, ouais. Ouais, Valentin, ouais, mets-toi d'un côté, comme ça il va décharger, c'est bien, tu verras pas.
Dévouez-nous, dévouez-vous.
Non, Valentin, c'est pas... Non, t'as pas à toucher ça.
Vouez-vous à nous.
Valentin ?
Vouez-nous à vous.
T'as pas à toucher.
Et Valentin qui aide à décharger les cagettes de carottes, les courgettes...
Et les tomates.
Très bien, merci, laisse-la.
D'accord.
Valentin, c'est tout bon. Merci.
Allez, bonne journée.
Dévouez-nous, dévouez-vous, dévouez-nous.
Bonjour. Ah, c'est le linge. Vous revenez de la lingerie.
Là.
Une de toutes les pérégrinations matinales de notre vie quotidienne, on emmène le linge sale à la lingerie dans une petite carriole à roulettes qui grince, qui est lourde. Et puis on discute sur le chemin. On regarde les rhododendrons. Enfin, moi, je les regarde, mais Francis, il me raconte... Qu'est-ce que tu me racontes ?
Le psychiatre, tu vois, le psychiatre.
Tu passes du coq à l'âne. C'est un peu le principe ici. On ramène du linge propre, des couvertures, des chaussettes. Et du linge aussi pour les gens qui n'arrivent pas à aller les chercher eux-mêmes. Et je vois que...
Et des doudous.
Ouais, mais alors ça, c'est spécifique à Francis, je découvre. C'est un petit trafic de doudous entre la lingerie et le parc.
Un petit mouton.
En fait, Francis, tu disais que tu allais faire conversation avec eux.
Ouais.
C'est tous ces petits échanges invisibles. Pas invisibles, mais discrets, qu'on méconnaît, qu'on découvre un jour.
Et du coup, vous appelez comment ?
Leïla.
Vous êtes monitrice à la Borde depuis
17 ans et demi. Bientôt la majorité.
Là, vous tirez la carriole à deux.
Ouais. Elle est assez lourde, mine de rien.
Bonjour, je m'appelle Valentin Bernard, j'étais arbitre de foot pendant 20 ans. Et là, nous allons aller à la piscine Tournesol à Blois et nous allons revenir après pour midi et quart, 13h pour le repas. Bonne journée à vous, ensoleillé et à très bientôt, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, bonne piscine. Juste derrière le château de la Borne, il y a plusieurs dépendances.
Et il y a une petite maison avec des fenêtres rouges et des portes rouges. C'est le 207 où il y a le secrétariat médical et les bureaux des médecins de Carpentier et Couturier. Bonjour. Vous attendez tous pour le docteur Couturier ? D'accord.
J'attends le Carpentier, mais je n'ai pas vu hier, il n'était pas là.
Vous appelez comment ?
Alors moi, c'est Christian.
Pourquoi ça s'appelle le 207 ici ?
Alors ça, c'est le secrétariat.
Pardon ?
Avant, c'était notre numéro de téléphone et c'est resté en fait.
Ah, d'accord.
Moi, je m'appelle Isabelle et ça fait 32 ans que je travaille à la clinique. On fait les consultations extérieures, on accueille les patients. Des patients restent des fois pour faire des photocopies. Et enfin, voilà, c'est très varié. Et on essaye d'être le plus accueillant possible.
Bonjour. Ça va, Christian ?
Ça fait longtemps que vous habitez à la Borde ?
Oh, j'ai connu le docteur Oury. Il avait 36 ans.
Vous avez connu Jean Oury quand il avait 36 ans ?
J'étais un enfant. Je suis doyen de la Borde. J'avais 15 ans et demi.
Oh, qu'est-ce que vous êtes arrivé ?
Oui.
Et ça fait combien de temps alors que vous êtes à la Borde ?
Ben, ça fait...
T'as quel âge, Christian, aujourd'hui ?
J'ai quel âge ? 85. Le docteur Oury m'a dit, pour être de bonne humeur, faut toujours coiffer à gauche. Et la pensionnaire qui préférait de toutes, Denise Obineau, elle est charmante. Il faisait de l'humour. Oui, un jour, il y avait la réunion du vendredi. Elle se lève au premier milieu de la réunion. Docteur Oury, vous êtes un con. Alors, docteur Oury, oh, que c'est charmant. Je suis un grand con ou un petit con ? Un très grand con. Nous nous voyons ce soir au rendez-vous. Oh non, certainement pas. Vous n'êtes pas capable d'être docteur. Alors, elle claque la porte. Alors après, tout le monde y regarde, on attend un peu, puis elle est vraiment charmante. Je l'évite très bien. Ah, ah, j'en ai marre de cette cabane. Alors, on n'est pas dans une cabane, on est dans un château.
À tout à l'heure. À tout à l'heure.
Le principe, d'abord, c'est pas un principe très original à la Borde, est l'application, disons, de toute une doctrine qui est née ailleurs, en particulier en France, à l'hôpital de Saint-Alban, pendant l'occupation et la libération. Or, le principe, c'est, comme on disait à cette époque-là, d'humaniser au maximum la vie à l'intérieur de l'hôpital.
Vous l'avez connu, Jean Oury ?
Ah oui, ma vie était dure.
Si j'entends des gens qui disent du mal du docteur Oury, ça me plaît pas du tout. Hein. Non.
J'ai connu M. Oury, qui était strict et assez sévère, mais juste.
Il avait ses humeurs.
Il piquait des colères comme ça, à première vue, on a l'impression que c'était quelqu'un de très rigide, mais en fait, c'était quelqu'un de très attentionné. Et...
Souvent, il disait ça, si c'est ça, je ferme la borne.
Des colères, on aurait des bourrasques.
Des bourrasques. Pourquoi il se mettait en colère, par exemple ? Vous vous souvenez ?
Il avait des exigences.
Des exigences ?
Du personnel. Et il se mettait en colère quand ça fonctionnait pas.
Le jour, il y a une connerie de moniteur. J'étais au bois. Qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas dans ton secteur ? Oury serait passé à ce moment-là, il aurait foutu une paire de claques.
C'est un homme extraordinaire.
Je dors à côté de la poster de la photo du docteur Roux.
Chacun avait la parole. Le tigre.
France Inter. Contrevent. Charlotte Perry.
Alors, juste pour qu'on se situe, on se trouve ici, on se trouve dans les bureaux médicaux, dans le bureau qui était celui de docteur Jean Oury, mon père. Je m'appelle Yannick Oury Poliero. Je suis la fille aînée de Jean Oury. En 1947, mon père est parti comme jeune interne à l'hôpital public de Saint-Alban, en Lozère, qui avait pour médecin principal le docteur François Tosqueyès, qui a été réfugié du franquisme. Et pendant la guerre, il a fait en sorte d'ouvrir l'hôpital et d'aller chercher du ravitaillement dans la montagne avec les patients. Ça, c'était les premiers moments de l'ouverture d'une toute autre manière d'aborder la maladie mentale.
Donc votre père a travaillé avec lui
jusqu'en 49. Ensuite, il est venu dans le département et il a travaillé de 49 à 53 à la clinique de Sommery, qui est une petite clinique psychiatrique, la seule du département, parce qu'il n'y avait plus rien dans le département du Loir-et-Cher après la guerre. Et en 53, il souhaitait à ce moment-là revenir vers Paris, puisque mon père est parisien. On lui a proposé alors d'être remplacé par un autre médecin qu'il a reçu. Il voulait lui parler des malades qui étaient là. Et l'autre médecin n'a pas accepté de voir les dossiers, ce qui a mis mon père dans un état de colère monstrueux. Mais c'était quelqu'un qui pouvait avoir des colères épouvantables. Et il a décidé à ce moment-là de partir, mais d'emmener tous ses malades. Et alors, il a prévenu l'ordre des médecins en disant « Je ne fais pas confiance à mon confrère, donc je décide de partir avec les patients, de les installer le temps que je trouve quelque part un endroit dans une maternité. » Et puis une autre partie, des patients qui avaient moins besoin de soins spécifiques, il les installait dans un hôtel au bord de la Loire, l'hôtel de la plage à Saint-Dié-sur-Loire. Cette situation, ça a duré 3 semaines à peu près. Et puis, il a cherché activement un endroit où pouvoir les réaccueillir. Et c'est à ce moment-là qu'il a trouvé le château de la Borde et qu'il l'a acheté. Le 6 avril 1953, la Borde a ouvert. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vécu pendant 15 ans dans la clinique, au 3e étage, avec les patients. On partageait le même bâtiment, puis les mêmes sanitaires aussi. Moi, j'avais une nounou exceptionnelle, elle s'appelait Marie, qui était schizophrène, qui était une paysanne de Sologne, connaissait très bien la campagne, les fleurs, etc. J'avais une adoration pour elle. Elle délirait, hein. C'était quelqu'un qui délirait, elle croyait que à la télévision, on s'adressait à elle. Il y avait comme des injonctions, des choses extravagantes. Par exemple, il fallait qu'elle aille porter sa jupe plissée à la poste pour l'envoyer à je ne sais pas qui, au maire. C'était très très délirant, mais il n'empêche qu'elle s'occupait parfaitement de nous.
J'ai jamais eu de soucis particuliers.
Aucun. Aucun.
Mais ça, c'est lié
au fondement, si on peut dire, de la psychothérapie institutionnelle, à savoir que déjà, c'est un lieu où on circule, les gens ne sont pas enfermés, et les gens peuvent s'adresser à qui ils veulent aussi. Et surtout, c'est le rôle de ce qu'on appelle le club thérapeutique de la Borde, c'est de permettre justement que ces échanges puissent avoir lieu dans le quotidien. C'est ça qui compte, c'est de pouvoir se rencontrer sans obstacle.
Alors, le club thérapeutique, c'est quelque chose qui a pris une ampleur énorme ici, qui est un organisme autonome au point de vue juridique, organisé par le personnel et les malades. Tous les malades en font partie. C'est une association de 1901 qui passe contrat avec l'établissement pour développer à l'intérieur toute la vie sociale. Ça permet de pouvoir justement lutter contre une oppression qui existe toujours, dès qu'il y a mise en place d'un établissement avec hiérarchie et avec un but quand même de rendement commercial ou autre.
Je peux parler ?
Ouais.
Bah pose-moi des questions.
Eh bah, ben, comment vous appelez ?
Victor. Je viens de déjeuner à midi.
D'accord.
Le service de midi et le service de 13h. Et on sonne la cloche avant le repas pour prévenir tout le monde.
Donc là, moi, si je veux aller déjeuner, c'est à ce moment-là qu'il faut que j'aille...
Ouais, c'est là. Hop.
Hey. Dimanche
qu'arrive. Comment ? Vous m'invitez à votre table ?
Oui.
Eh ben, avec plaisir.
Salut, bonjour.
Une quinzaine de personnes assises autour de la table. Mais qu'est-ce que vous faites là sur la feuille permanence tabac ?
Oui, ah. On se grille pour la semaine.
Tous les lundis, pendant qu'on mange, on fait un calendrier de la semaine pour savoir qui va faire la permanence du tabac. Donc tous les matins, à 11h, on est à deux à faire la vente de tabac pour dépanner ceux qui ne peuvent pas se déplacer à l'extérieur.
Noémie, je peux te mettre avec Ibéric lundi ?
Ouais.
Ok.
Johan, est-ce que tu peux faire passer la salade ? Il y a trois
personnes. Ibéric, tu fais la commande mercredi ?
Oui, on fait la commande la veille et on va récupérer la commande le matin vers 10h à Courcheverny.
Cet atelier tabac, c'est juste pour que les uns et les autres prennent des responsabilités. Il s'agit quand même de 600 euros qu'il faut gérer, qu'il faut aller chercher le tabac. Et cet atelier, il dépend complètement du club thérapeutique. Ça lutte un peu contre le trafic, tout type de difficultés la nuit, en particulier quand on manque des cigarettes. À la place du trafic, il y a de la circulation. L'atelier tabac, comme d'autres ateliers, il a du sens thérapeutique. Ils sont là pour réguler justement ces choses de la vie quotidienne.
Donc l'atelier tabac, ça fait partie du soin en fait.
Ça fait partie du soin. Il s'agit de mettre les gens en mouvement, comme l'avait prévu le docteur Ouvry dans tous ses travaux, même tous les théoriciens de la psychothérapie institutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut toute une vie du club thérapeutique pour ça. Il y a des gens qui prennent de vraies responsabilités. Ça fait partie du soin.
Là, je vais aller dehors pour partager avec Louise le gâteau.
Vous vous appelez comment ?
Brigitte. J'ai 72 ans. J'ai fait une dépression à la mort de ma mère. Et une dépression parce que j'ai été opérée à 29 ans, je ne pouvais pas avoir d'enfant, à la ménopause. Donc, depuis, je suis à la borde.
C'est énorme.
Moi, c'est la nuit, je ne veux pas te voir le dans les couloirs.
Le diable, il m'envahit.
Tu quittes tes chaussures. Les vols la nuit.
Il y a des vols ?
Énormément. Il y a Jean-Peter, cette nuit, que j'ai vu dans la chambre, sans chaussures, il les laisse à l'entrée. Il y a Franck qui est venu.
Mon père fait des meurtres.
Pour qu'il y ait un paquet de cigarettes à moi, il fouille dans les draps.
Non, d'être là, elle a dit, mais
je ne supporte pas. Il est en chasse, il fait des kilomètres la nuit pour trouver des cigarettes. Et une fois, il m'avait volé, je suis allée dans sa chambre, il y avait des cigarettes à moi. J'ai donné une cigarette et je m'en suis donné une. Et on a fumé ensemble.
En plein milieu de la nuit ?
Mais on ne peut pas toujours être en colère. Des fois, on veut que ça soit plus simple. Qu'il me demande une cigarette, c'est normal. Mais pas qu'il vole. Pas qu'il visite.
Puis quelqu'un qui rentre dans votre chambre en plein milieu de la nuit, c'est...
Oui, bah, je me lève en vitesse, je m'habille et je vais au château.
Ça vous est arrivé cette nuit ?
À 3h du matin.
Qu'est-ce que vous avez fait une fois arrivé au château à 3h du matin ?
On boit du café, on fume. On écoute de la musique. Ça passe vite. Bah, il y a eu l'éclipse. Et officiellement, c'est...
Je vais te dire des trucs un peu bizarres.
Clairement, en train de...
Les fous, c'est bizarre.
Lentement se terminer.
Ce qui compte, c'est justement d'être là, avec l'autre, là où il est.
Le médecin m'a tapé, il m'a demandé pardon. Il m'a tapé, mais je sais pas.
Qui ?
Le médecin, mais j'ai trouvé
des trucs. Ah bon ?
Qu'est-ce qu'on va avoir après l'éclipse ?
Même au moment des épisodes de fin du monde.
Attention, oui.
Mais il faut entrer dans le délire, ce malade.
On aime bien parler astrophysique, Evelyne et moi.
Ah oui. Dès que je te dis quelque chose, il y avait un élève à moi, 6e, 5e, il a tapé son frère, il faisait plus bon, il était moi, il était bon à l'école.
J'ai toujours été bizarre. À l'école, au travail, dans la famille, avec les copains.
Nous sommes des fous, vous et nous.
nous sommes très doux, vous et nous. Nous sommes des loups, des filous, nous sommes des poux, des bijoux. Des nous et nous, des nous et vous. Des vous et nous, des vous et vous.
Qui sont les médicaments, ils sont... Ils sont pas là.
Vous cherchez les médicaments de qui?
De Riti. Riti, Riti, je les vois pas, moi.
Je connais pas son nom. Qui c'est que vous appelez Riti?
Ben, ces médicaments ne sont pas là.
Ah, d'accord.
Et à ce moment-là, l'autre a confiance tout de suite. Elle dit enfin un type qui est dans mon paysage.
La mécanique céleste est en train de bouger.
Je suis allé au secteur, à HP. On m'a trouvé bizarre. Je suis venu ici, et ici on me trouve bizarre aussi.
Comment va-t-elle se rétablir et nous donner des saisons?
C'est marrant cette obsession avec la mécanique céleste.
Il y a une sorte de complicité qui peut s'instaurer. Et après on peut conduire très bien à une position critique.
N'importe quoi.
Et toi, tu me trouves pas bizarre?
Pas trop.
Oui. Là, c'est le rail, c'est ça?
C'est ça, c'est le rail. C'est un peu un récapitulatif des ateliers à faire l'après-midi.
Donc là, ça veut dire que tout le monde se réunit sur les marches du château, devant le château, pour présenter la journée, les ateliers.
Voilà, c'est ça. C'est pour rappeler aux patients les ateliers qu'ils peuvent faire pendant l'après-midi.
Il y a le jardin.
Oui. Qu'est-ce que vous plantez au jardin?
Des tomates.
Ensuite, il y a la poterie. Est-ce qu'il y a la poterie?
Madame, qu'est-ce qu'il faut acheter comme radio?
Claire, tu poseras la question tout à l'heure, là on fait l'oral.
La chasse à la vaisselle.
Youpia.
Ce soir à 17h30 et 18h mise des tables, 19h le repas. Ah, le bar. Oui, pardon.
Et il y a aussi l'atelier feuilles volantes à 17h au grand salon.
Merci, après-midi.
En tout, une quarantaine d'ateliers gérés par le club thérapeutique organisent la vie sociale à la Borde. Il fut un temps où les pensionnaires participaient aussi à l'élaboration des repas en cuisine. Un atelier très bénéfique, aujourd'hui bien difficile à mettre en œuvre en raison des normes sanitaires. Et ça, ça le plongeait dans des colères noires, Jean Houry, ces histoires de normes. Pourtant, il a bien fallu faire avec. Et c'est un véritable exercice d'équilibrisme pour son gendre, Marino Pugliero, l'actuel directeur, et sa petite fille, Flore, que de réussir à concilier l'esprit de la Borde avec les exigences de l'administration et les politiques de santé actuelles, aux antipodes de la vision prônée par la psychothérapie institutionnelle. Car de lourdes menaces pèsent aujourd'hui sur la Borde et sur la conception de la psychiatrie qui y est défendue.
France Inter. Contrevent.
Bonjour. Bonjour. Essayez-vous.
Eh bien, je m'appelle Philippe Bichon, je suis médecin psychiatre à la clinique de la Borde. Je suis arrivé ici en avril 1983. Je savais qu'on y pratiquait une psychiatrie un peu différente. Même fortement différente d'ailleurs de celle de l'hôpital public, en tout cas de l'hôpital psychiatrique de Tours.
C'est ça, c'est que la Borde a toujours été ce lieu un peu unique, un peu singulier dans le paysage de la psychiatrie française. Mais on a l'impression, enfin aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est un miracle qu'elle existe encore. Ça vous inquiète ou vous...
Ah ben il y a une vraie menace, hein, il y a une vraie menace. Je pense pas du tout qu'on est préservé de cette, on pourrait dire, dérive un peu neuroscientifique ou des nouvelles conceptions de la psychiatrie. On pourrait parler de cérébrologie, quoi, comme si les maladies psychiatriques étaient juste des maladies du cerveau et tenaient pas du tout compte de tout le contexte social, environnemental, tout l'apport, on pourrait dire, de la phénoménologie, de la psychanalyse. Tout ça, c'est plus du tout pris en compte. Et dans les discours, on a l'impression que si on est schizophrène un certain nombre d'années, ça devient incurable et que c'est plus la peine que ce soit pris dans un réseau de soins. Et du coup, ça bascule vers le médico-social. Donc on est menacé ici, on est très menacé. Il y a une pression actuelle, en tout cas, des autorités... sanitaire pour transformer un certain nombre de lits en lits de médico-social. puisque des gens qui sont là hospitalisés depuis longtemps, pour eux, il n'y a plus de perspective de soins. Donc, quel est l'intérêt de continuer à rester dans le champ sanitaire? Mais j'arrive, Claire. Mais oui, oui, cette pression-là... Enfin, je trouve que c'est très difficile, cette pression, on va dire, normative, hein, qui pousse un peu à faire disparaître les lits d'hospitalisation, parce que l'hôpital devient juste le lieu d'accueil de la crise. Donc, on concentre des gens qui sont en grande difficulté, en pleine crise, avec de moins en moins de moyens. Alors, du coup, on les attache, on les isole de plus en plus, on les enferme. Et c'est un effet paradoxal. Parce que, effectivement, ici, des patients qui sont là au long cours, ils vont participer de l'ambiance et de l'accompagnement aussi. Ils ont un coefficient thérapeutique important vis-à-vis des autres patients. Et ce potentiel soignant, on va dire, des patients, dans des structures d'hospitalisation à très courte durée, il ne peut pas du tout se déployer et participer aux soins des autres. C'est toute cette question, on peut dire, du transfert. Et comment les relations se tissent, et qu'on peut compter sur l'autre. Est-ce que c'est ça le transfert avant tout, hein, c'est compter sur l'autre, et avec l'ensemble des habitants.
C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est comme une sorte d'écosystème. Tout est comme dans un village intégré, ce qui fait que les liens se tissent avec aussi bien le cuisinier que la personne qui aide au ménage.
Oui, mais même là, on est attaqué parce que, avec l'hygiène, la sécurité, ça devient beaucoup plus difficile parce que les patients avant participaient très activement à la cuisine, à la préparation des repas. Et c'est vrai que là, il y avait un outil thérapeutique extraordinaire, alors qu'il continue quand même, mais il faut qu'ils mettent des charlottes, il faut qu'ils mettent des gants. Donc cette pression normative vient compliquer aussi la prise en charge des patients et leur responsabilisation concrète. Ça vient faire pression sur notre pratique et notre vie quotidienne.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Par contre, vous êtes 117.
On arrive dans la cuisine.
Alors, est-ce que tu veux quelque chose?
Tu sais, les poids rectangulaires, j'en ai parlé.
Ah, de sardines?
Oui. Moi, qu'est-ce que j'ai répondu, Jacques? Les sardines et macro.
Oui.
Ce jour-là, tu regardes le menu. Nous, on ne sait pas quand, mais il faut venir le jour même, parce que maintenant, on a des mouches, même si on nettoie, on ne peut pas les garder.
Là, je sais qu'on en fait lundi, là.
Ouais.
Donc lundi, tu viens, tu les récupères.
Il ne faut pas que ça traîne, Jacques.
Parce que là, après, on attire toutes les mouches, et dans une cuisine, c'est pas terrible, quand même.
Ouais, ouais,
à moins que toi, tu aimes bien manger avec des mouches.
Non, j'aime pas. Non.
Bah, voilà. Donc nous, on est pareil. C'est clair.
Vous voulez récupérer les boîtes de sardines et de maquereau, c'est ça?
Voilà. Oui, parce que comme ça, il s'en sert pour son atelier, pour... parce que Jacques, c'est quelqu'un qui s'occupe des abeilles.
Vous en faites quoi, des boîtes de sardines et de maquereau pour les abeilles?
C'est pour mettre les pointes dedans, les outils, voilà, les vis
c'est
tout ça.
C'est des rangements.
Dans une étagère. Tu comprends?
Je comprends.
J'avais en 84 à la boîte, j'avais à peine 19 ans. Quand je suis arrivé à la Borde, il y avait l'autorisation d'éplucher des légumes autour de la table avec les cuisiniers. T'as connu cette époque-là, toi?
Non, j'ai pas connu.
T'es arrivé après?
En 98, je suis arrivé.
Maintenant, c'est interdit à cause des lois d'hygiène.
C'est que les puces se font toujours, ou ils se font à côté, ou alors ça se fait dehors.
Mais pourquoi ça se fait plus ici comme avant?
Parce que des nouvelles lois, des nouvelles règles, et c'est comme ça, Jacques. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis 83.
84. Moi, je suis en hôpital de jour. Avant, j'étais pensionnaire. Et le truc, c'est que si vous avez envie qu'on parle un peu, j'aimerais bien qu'on s'assoie parce que je suis un peu fatigué parce que je reviens des abeilles, justement.
C'est ça, vous avez la tenue d'apiculteur, là?
Ouais.
La capuche qui se met avec les petites grilles pour pas vous faire piquer?
Ouais.
Ouais, bah, asseyons-nous, alors. On peut même s'asseoir dehors, si vous voulez. On est à l'arrière du château de la Borde. Et il y a une petite table en bois qui a été installée avec des sièges qui ont été sculptés dans le bois, qui est juste à l'ombre d'un arbre. C'est bien agréable parce qu'il y a du soleil. Puis derrière nous, il y a une prairie aussi, avec des cages de foot.
Et puis les tilleuls là-bas.
Et les tilleuls.
Vous entendez le vent souffler dans les feuilles?
C'est beau d'ailleurs. Vous êtes à la Borde depuis 84, mais en hôpital de jour.
Non, de 84 à 95, j'étais pensionnaire. Avant d'arriver à la Borde, j'étais dans un hôpital psychiatrique à Strasbourg. C'était un hôpital fermé, vous savez comment c'est les hôpitaux fermés.
C'est comment ?
C'était au premier étage, je rentrais dans le couloir, et puis quand j'étais dans le couloir, et ben c'était fermé à clé automatiquement, et puis il y avait des chambres de chaque côté. Les fenêtres, c'était pas des battants, c'était des trucs qui bâillaient un peu, vous voyez ce que je veux dire ?
On ne peut pas ouvrir pour éviter les suicides ?
Ouais, c'est ça, mais sauf que moi, je voulais pas me suicider, je voulais m'enfuir. On s'emmerde dans les hôpitaux psychiatriques et on nous propose de la bouffe dégueulasse, voilà. Et encore avant, j'étais dans un lycée professionnel en menuiserie, mais ils n'ont pas voulu me garder parce que j'étais déjà malade. En fait, mon truc, je sais pas comment expliquer, mais... Quand j'étais à la fin de la troisième, eh ben, le prof de maths, il dit à mon père, il est peu probable que votre fils puisse entrer en seconde. Et alors que moi, je travaillais énormément, mais le cerveau, il marchait pas bien. Et puis, mon père, c'est un scientifique, il n'a pas supporté ça. À partir de ce moment-là, j'ai eu des troubles du comportement, c'est-à-dire je ne pouvais plus avaler ma salive. Alors, je crachais tout le temps par terre, je me faisais passer comme un voyou. Comme je crachais par terre, on ne m'acceptait pas dans le réfectoire. Alors, je ne mangeais pas. Et alors, j'étais habitué à vivre avec très peu de nourriture. Et au lycée professionnel, je me suis fait virer parce qu'ils trouvaient que c'était trop dangereux que je sois dans un établissement tellement que j'étais maigre. Ensuite, quand j'atterris à Strasbourg, ben là, ils me filaient de la nourriture et ils nous pesaient chaque semaine. Je prenais 2 kilos chaque semaine. Et puis, je sais pas, mais imaginez un peu, si vous êtes enfermé, qu'on vous pèse chaque semaine et que vous prenez 2 kilos par semaine, ben c'est inquiétant. Alors ça m'inquiétait, puis là-bas à l'HP, j'ai appris à manger, à me faire vomir. Je faisais ça à la Borde au début. Et puis ici, je me suis intéressé aux abeilles, ça m'a aidé à arrêter. Je me suis trouvé une motivation. Et puis ici, je suis dehors, je fais des kilomètres à pied, il n'y a pas de barrière et tout ça, quoi.
Elles sont où les ruches ?
Vous voyez le pré aux chevaux devant le jardin ? Eh bien, c'est au fond du pré aux chevaux. De l'autre côté, il y a une petite prairie, elles sont là. Un coin où je peux me sentir tranquille. Eh bien, vous savez pourquoi j'ai voulu faire du miel aussi ? Parce que c'est le principe de l'autarcie pour moi. C'est une drôle d'histoire, hein.
J'ai fait un rêve pas mal. J'avais trouvé une bulle, mais une grosse bulle, tu vois. Tellement grosse qu'on pouvait vivre dedans. Et pas tout seul en plus, c'est ça qui est bien. Dedans, il y avait un jardin comme chez nous. Sauf que le soleil, c'était la lune parce que c'était dans l'univers. On mangeait dehors et ça faisait une grande table. Des fois, il y avait des bouts d'étoiles qui tombaient sur la bulle. Mais elle cassait pas, ça faisait baum, baum, et ça sautait ailleurs. Après, je sais plus ce qui s'est passé. Parce que je me suis réveillée, et même si je fermais les yeux, il n'y avait plus rien.
Donc, Flore Pouliero-Vitez, j'ai grandi à la Borde, j'y ai passé vraiment toute mon enfance. Et puis, j'ai travaillé dans les institutions publiques, et au moment du décès de mon grand-père, en 2014, j'ai fait le choix de revenir pour poursuivre son travail avec mes parents. Le type de psychiatrie qui est pratiqué ici n'est pas du tout aujourd'hui le modèle dominant. Il n'est pas uniquement question d'économie sur le plan financier, budgétaire, il est aussi question d'une vision de la folie, de la maladie psychique. Ce qui est prôné majoritairement aujourd'hui, c'est la désinstitutionnalisation. Et je reste convaincue qu'il y a une partie des patients qui ont besoin de l'institution. Non pas comme un asile où les personnes seraient là et qui ont besoin d'institutions pour survivre et pour peut-être, si on y arrive, pour les aider à vivre. C'est-à-dire des gens qui ont besoin de soins constants. Parce que sans cette dynamique, c'est des personnes qu'on retrouverait très rapidement à la rue, pour certains en prison. Et on sait qu'aujourd'hui, les solutions médico-sociales qui sont proposées sont pas du tout suffisamment étayés pour accompagner ces personnes. Et ces patients-là, c'est des personnes qui ont en général plus de 30 ans et qui sont pas, j'allais dire, réinsérables dans la société, en tout cas telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Parce qu'il y a une exigence d'efficacité qui peut mettre en échec très rapidement des personnes dont l'État n'est pas compatible avec cette exigence-là. Notre travail ici, c'est déjà de faire en sorte que quelqu'un puisse se tenir debout. Et ça prend du temps. On ne fait pas de la psychiatrie moléculaire, quand même. Donc, c'est aussi tout un tissu soignant qui est à penser dans la continuité. Et on a des exemples de personnes qui, d'ailleurs, s'en sont très bien sorties à l'extérieur. Plein d'exemples. Mais il y a un certain nombre de personnes pour qui ça n'est pas possible. Alors, on fait quoi pour ces personnes ? On fait quoi pour ces personnes qui ont besoin de soins ? Et ça, c'est difficilement entendable aujourd'hui, pour un certain nombre de raisons, à la fois économiques et politiques, au sens des politiques de santé. L'hospitalisation est conçue comme quelque chose qui doit être bref. Moi, je vois sortir des gens, parfois, qu'on ne ferait pas sortir, parce qu'on estime qu'il en irait même de leur sécurité ou de la sécurité des autres. Surtout pour des personnes qui ont un parcours aussi difficile, on ne peut pas les traiter en 3 semaines. Les personnes qu'on accueille ici ont bien souvent, avant d'être hospitalisées à la Borde, connu un parcours psychiatrique avec des moments de crise et pour la grande majorité ont été hospitalisées sans consentement. L'impression de calme et de relative tranquillité qu'on peut avoir à la clinique ne veut pas dire que les gens qui sont ici sont stables et n'ont pas besoin de soins. C'est un travail de chaque jour pour maintenir cette forme de tranquillité. Et donc cette stabilité, elle est en réalité très précaire. Parce qu'il suffit, on le sait, hein, d'un rien. D'un rien.
Tu joues de ma gueule.
Non, je joue pas de votre gueule, c'était magnifique. Vous avez joué quoi, là, comme morceau ?
Aurore boréale.
Tu peux mettre un Pepsi, s'il te plaît.
Et un Dada Fraise, s'il te plaît.
Merci.
Pour moi ? Pour moi !
J'arrive.
C'est un pote à moi, mais il m'agresse.
Serge.
Je ne peux pas l'approcher.
Personne ne peut l'approcher, là, je pense.
Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de lui dans sa tête. On ne peut rien faire. Il n'y a pas de soins. C'est des choses à l'intérieur. On n'a pas accès. Parfois, c'est insupportable pour les autres. Moi, ça va. C'est mon pote. Ça ne me dérange pas. Mais pour d'autres, ça peut être difficile. Et parfois, c'est nécessaire de le mettre dans une voiture puis de l'emmener faire un tour. Quoi, parce que ça devient intolérable pour les autres.
Qu'elle dort ?
sais.
Tu peux me rappeler ton prénom ?
Moi, c'est Philippe. J'ai toujours été bizarre. À l'école, au travail, dans la famille, avec les copains. Je suis allé au secteur, à HP. On m'a trouvé bizarre. Je suis venu ici, et ici, on me trouve bizarre aussi. Et toi, tu me trouves pas bizarre ?
Non, pas trop.
Dans le DSM-4, je crois, on appelle ça « ne maîtrise pas les codes sociaux ». Je sais pas quoi dire à quel moment et à qui. Dans ma tête, c'est complètement mélangé, quoi. C'est assez Serge, t'entends Serge dans ton micro ?
Je l'entends de loin, ouais, mais je l'entends crier, ouais.
C'est lui qui m'a accueilli à la Borde. Mmh. Ouais, c'était il y a 23 ans. Une fois, je dis à la motrice, je dis « mais pourquoi écrit comme ça, sa maladie ?» Et elle me répond « c'est sa maladie, sa vie, ses déceptions. » Parce que ce type-là, Serge, là, avant, il était aux Beaux-Arts à Paris. Tu vois ses photos, il était beau gosse, quoi. Il peut être très sociable, il peut théoriser sur Kandinsky ou sur Picasso. Je sais pas s'il se sent persécuté, mais on peut pas le raisonner parfois. S'il y a un truc qu'il faut bien que tu gardes en tête, c'est que ici il y a de la souffrance. Parfois t'es complètement au fond, ouais, et tu souffres comme un damné, quoi. Tu vois, mon frère a tué mon père il y a 9 ans maintenant. Et je me suis remis à boire. Ça faisait 21 ans que je n'avais pas bu. Et quand je sors en ville, là, une fois par semaine, je picole un peu. Pas trop. Prendre 2-3 bières et j'oublie que mon frère a tué mon père, quoi. Je te dirais une seule chose, à la Borde, il y a du confort intérieur. Quand ça va pas, ça va quand même. C'est comme une promenade ici. Il y a toujours un moniteur, un pensionnaire ou n'importe quoi. Tu vois passer un chat par exemple. Comme ça tu vas mieux, parce que t'as vu le chat passer. Ou ici on apprivoise les oiseaux rentrent dans les salles à manger. Souvent c'est des rouges-gorges. C'est en plus, quand tu délires un peu, tu vois un oiseau, il est là, il fait comme ça, il est retour devant toi, t'as l'impression qu'il te regarde, quoi. Et c'est vrai que si tu peux avoir du confort, mais rappelle-toi qu'il y a beaucoup de souffrance ici. Rappelle-toi ça. Pour certains, c'est super dur, quoi. Surtout la solitude. Pas la solitude de Léo Ferré, hein. Je te parle de la solitude, le flirt, la solitude... Ici, il y a deux lois non écrites, c'est l'interdit de la violence et l'interdiction des relations sexuelles. Et ça, c'est vachement compliqué, quoi. Parce que tu peux aller voir ton médecin, tu dis « Ok, d'accord, je suis malade, je prends mes médicaments, je vais vous voir, je fais des ateliers, mais il y a une fille qui me plaît pas mal et on me dit « c'est interdit ici, quoi ». Et je peux te dire, quand t'as personne dans ta vie, c'est super dur, quoi. Ouais, c'est dur. Hein. Et la solitude, et la souffrance psychique. Tiens, il y a les deux là-bas. Roudoudou et roudoudette.
Vous vous baladez ?
Non, Philippe, hein.
Si, si, bien, parce que... moi, je
savais plus quoi dire.
Allez,
assieds-toi.
Dites-moi, comment vous vous appelez ?
François.
Elisabeth.
Ça fait combien de temps que vous êtes à la Borde ?
Ça va faire 30 ans cette année.
30 ans ?
Et Elisabeth, 29 ans.
29 ans ?
Avec un statut différent. Oui. D'abord hospitalisé, après en hôpital de jour, et après maintenant en consultation extérieure. Tout un parcours.
Moi, j'ai été 11 ans hospitalisé, et ensuite depuis 19 ans en hôpital de jour.
On est souvent tantôt chez lui, tantôt chez moi. On circule beaucoup entre Paris, Blois, Blois-Paris.
Vous êtes un couple ?
Oui.
Nous sommes un couple.
Et vous êtes rencontrés à la Borde ?
Oui.
Exactement. 6 mois après. Il suffit de fermer une salle de bain. C'est connu de tout le monde. Mais officiellement, c'est important de tenir une éthique. Parce que les gens viennent ici pour se soigner. Ça ne doit pas se transformer en lupanar. Donc il y a la nécessité
de maintenir une position éthique. Et donc, les couples ne sont pas recommandés, mais ils savent très bien que les personnes, quand elles restent des années, ont besoin de compagnie aussi. C'est compliqué, cette histoire, parce que c'est un lieu de liberté, et en même temps, il ne faut pas que ça soit n'importe quoi.
Une chose savoureuse, je ne sais pas si je peux le dire, parce que c'est un peu grivois, mais le médecin, je lui ai dit que j'avais eu des relations sexuelles avec une fille, et puis il m'a dit « Écoutez, branlez-vous
!» C'est un endroit merveilleux, alors il y a beaucoup de souffrance, c'est pas Disneyland, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais c'est un endroit qui oblige à travailler les préjugés qu'on peut avoir, à regarder l'autre, même s'il est en très grande difficulté, et on est en fait le résultat de cette rencontre.
Et tous les deux, vous avez réussi à sortir de l'hospitalisation complète pour petit à petit revenir dans la société, vous...
Non, on ne peut pas dire ça. Parce que quand il y a un handicap, quoi qu'on le dise, il y a quand même une difficulté d'avoir une vie professionnelle et tout ça. Moi, j'ai vécu une mort sociale et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes ici. Mon regret, c'est de ne pas avoir eu une vie professionnelle et de participer à l'effort collectif. Mais ça n'est pas venu de moi. C'est venu du fait qu'on n'accepte pas quelqu'un qui n'est pas conforme. Donc à partir de ce moment-là où il y a une non-acceptation, eh ben on continue d'avancer et d'aller vers des belles choses.
Je suis assez pessimiste. L'état de la psychiatrie aujourd'hui en France est déplorable. On attache de plus en plus les gens, on les fait sortir alors qu'ils ne sont absolument pas en état de sortir. Les gens se retrouvent dans la rue, surtout les gens pauvres. On les retrouve en prison aussi. C'est un effet d'une société qui déconne.
C'était Contrevent. Un grand merci à Charles de Silia pour la réalisation de ce reportage et un très grand merci également à tous les Labordiens pour leur accueil et leur confiance. Toutes les informations sont disponibles sur l'appli de Radio France où vous pourrez réécouter cette émission et nous laisser des messages.